Nous avons à plusieurs reprises déjà parlé des expériences que Josué a vécues lorsque il a conduit le peuple du désert vers la terre promise. Et nous avions déjà remarqué que derrière le personnage de Josué se cache celui qui en réalité a le même nom que lui, Yeshua, Jésus. Parce que les événements qui entourent le passage du peuple hébreu du désert à la terre promise sont souvent des événements qui ressemblent à ce que le peuple de Dieu vivra lorsque Jésus va revenir. Alors aujourd'hui, j'aimerais reprendre une autre page de la vie de Josué avec vous, dans cette même perspective, sachant que derrière le personnage de Josué se cache celui de Jésus notre Sauveur. Lorsque nous lisons le premier chapitre du livre de Josué, on ne peut pas s'empêcher de remarquer une phrase qui revient à quatre reprises. Dans le premier chapitre, à quatre reprises, il est dit « Fortifie-toi et prends courage ». Josué vient de remplacer Moïse. Et Josué doit se sentir tout à fait incapable pour prendre la place de Moïse, de le remplacer à la direction de ce peuple. Josué ne se sent pas à la hauteur. Il faut dire qu'il est là question de remplacer un géant de la foi, un homme d'une carrure spirituelle impressionnante. Et Josué, de toute évidence, ne se sent pas de cette carrure-là. Dieu, qui lui a donné là une lourde tâche, lui donne en même temps à quatre reprises cet encouragement « Fortifie-toi, prends courage » et l'assure qu'il sera avec lui comme il a été avec Moïse. On comprend parce que dans les chapitres qui suivent, les événements qui se passent demandent une dose de courage, de foi, de force que seul Dieu peut donner à ses serviteurs. Dans le chapitre 2 et 3, un thème va réapparaître qui se trouve partout dans les Écritures. Un thème très important. En fait, ce sont les deux volets d'une seule et même chose, l'alliance et le jugement. Deux aspects de cette relation avec Dieu qui est très importante, non seulement pour le peuple dans ce temps, mais pour le peuple de Dieu qui se prépare à rentrer dans l'éternité. Josué, arrivé au bord du Jourdain, va envoyer deux espions en reconnaissance pour aller visiter en particulier Jéricho et la région. Josué a compris la leçon 40 ans plus tôt. Il ne va pas envoyer 12 espions. Il était, vous vous souvenez, l'un d'entre eux à l'époque. Il va en envoyer deux, il va les choisir lui-même, et c'est à lui, Josué, que ces espions devront apporter leur rapport, pas au peuple. Il n'a pas envie que cet événement catastrophique qui s'est produit 40 ans plus tôt se reproduise maintenant au seuil de la terre promise. Il va donc envoyer deux espions avec cette mission d'explorer, de visiter Jéricho. Et ces deux espions, vous vous en souvenez, vont aller se mêler à la foule qui rentre de la ville. Et puis, ils vont aller à l'hôtel, chez Rahab. Le texte nous dit que Rahab est une prostituée. Et on peut se demander, misère, mais qu'est-ce que ces hommes ont été faire là pour commencer leur expédition? On pourrait en tout cas imaginer, sans être peut-être trop loin de la réalité, que Rahab avait une auberge et que Rahab offrait à tous ceux qui venaient à son auberge de multiples services, selon ce qu'ils demandaient, de manière à gagner sa vie d'une manière ou d'une autre. C'est dans cette auberge que les deux espions sont allés, parce que vous savez, finalement, dans ces endroits-là, on ne vous demande pas ce que vous faites là, vous êtes de toute façon un voyageur. Et puis, c'est dans ces lieux-là que viennent toutes sortes de gens, et c'est par ce moyen-là que vous pouvez savoir tout ce qui se passe. C'est là que ces deux espions sont allés. Ils sont rentrés dans cette maison, et très vite, Rahab s'est rendu compte que ces deux hommes étaient des Hébreux. Imaginez que depuis les murs de Jéricho, quand on regarde au-delà du Jourdain, on voit ce campement immense de 1 à 2 millions de personnes. Depuis les murs de Jéricho, on voit cette nuée au-dessus du sanctuaire. On voit cette colonne de feu la nuit. Depuis les murs de Jéricho, on voit le matin cette espèce de drôle de chose blanche qui est dans le camp et qui est la manne qu'ils vont manger encore pendant peu de jours avant que ça s'arrête. Ils le voient depuis les murs de Jéricho. Et puis, ils ont entendu tous ces récits qu'on leur a apportés de tout ce que Dieu a fait pour ce peuple depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, depuis qu'ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Et toutes les histoires qu'on leur a rapportées de ces miracles qui sont arrivés en chemin. Et voilà, ce peuple est là, juste de l'autre côté du Jourdain. Imaginez l'état d'esprit de la population à Jéricho. Rahab a compris que ces deux hommes venaient du peuple hébreu. Elle les reçoit. Et très vite, ils sont suspectés de venir espionner. Les autres gens dans l'auberge, dans le café peut-être qui est installé là, se rendent compte qu'ils ne parlent pas comme eux, qu'ils ne sont pas habillés comme eux, et très vite arrive aux oreilles du roi de Jéricho qu'il y a là deux espions. Un message est envoyé tout de suite à Rahab: tu as deux espions chez toi, apporte-nous ces deux hommes. Et Rahab, vous vous en souvenez, va les cacher et va donner cette réponse: oui, c'est vrai, ils étaient chez moi, mais parce que les portes de la ville allaient fermer, ils sont partis. Et ils sont partis dans telle direction. Courez donc après eux, vous les rattraperez, je suis sûr. Mais ils ne sont plus ici. Pensez donc, ils étaient sur le toit de la maison, cachés par Rahab. Elle s'est mise elle-même en danger pour protéger ces deux espions. Si elle avait été prise, elle aurait subi le sort des traîtres. En fait, quand on pense à ces deux espions, ce sont en réalité deux témoins qui viennent là et qui sont envoyés par Josué. Et je repense à ces deux témoins dont il est question dans les Écritures, à plusieurs reprises. N'avons-nous pas entre les mains le témoignage de Jésus? Ils sont les témoins de Jésus-Christ. Et nous avons entre nos mains, par l'Ancien et par le Nouveau Testament, le témoignage de Jésus. Le produit de l'esprit de prophétie donné aux prophètes, donné aux apôtres. Ils sont le témoignage de Jésus, ils sont la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, ce que l'on veut faire avec la parole de Dieu, avec les deux témoins, on n'est pas étonné que le roi de Jéricho ici veuille aussi les faire taire. C'est d'ailleurs tout ce qu'on va essayer de faire dans le monde, au travers de l'histoire, faire taire le témoignage de Jésus. Le faire disparaître, éliminer sa parole. C'est ce que représentent ces deux espions qui viennent chez Rahab. Mais Rahab a compris qui ils sont. Et elle va les recevoir. Non seulement elle va les recevoir, mais elle va s'engager envers eux et les protéger, risquer même sa vie pour eux. Et puis finalement, le texte nous raconte, dans le deuxième chapitre du livre de Josué, au verset 8, ce que Rahab va leur dire. Prenez avec moi ce texte dans le livre de Josué, au chapitre 2, au verset 8, il est dit: « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez, pour la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. » Rahab demande finalement aux deux espions de faire une alliance, un pacte avec eux. Et quand j'y pense, je trouve dans cette démarche de Rahab la démarche de la réception du salut. Elle a reçu le témoignage de Jésus. Elle a reçu la parole de Dieu. Ensuite, elle s'est engagée envers cette parole. Et maintenant, elle fait alliance avec Dieu par cette parole. C'est exactement la démarche que nous sommes invités à suivre pour faire alliance avec Dieu, pour nous approcher de Dieu, recevoir sa parole, nous engager personnellement par rapport à ce que cette parole nous donne et faire alliance avec Dieu. D'ailleurs, les espions non seulement vont accepter cette alliance, mais vont lui donner un signe de cette alliance. Et vous le connaissez, on le trouve un petit peu plus loin dans le même chapitre, au verset 18 par exemple. « À notre entrée dans le pays, attache ce cordon, disent-ils, de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. » Rahab va faire partir ses deux espions par la fenêtre de sa maison qui est en réalité attachée au mur de la ville. Mais avant de partir, les espions vont lui donner le signe de cette alliance. Ce cordon rouge, accroche-le à la fenêtre, ce sera le signe. Le mot qui est employé ici pour ce cordon est intéressant. C'est effectivement le mot « cordon », mais curieusement, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes en particulier, il n'est pas traduit par le mot « cordon », il est traduit par le mot « espérance ». C'est le même mot. Exemple, prenez dans le livre des Psaumes le psaume 62. Psaume 62, nous lirons le verset 5, qui est un exemple parmi les multiples que nous aurions pu prendre, où ce même mot est employé, mais traduit tout à fait autrement ici. Psaume 62, verset 6, dit ceci. « Oui, mon âme, fortifie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » C'est le même mot qui est employé ici par rapport au cordon qui servira de signe de l'alliance faite avec Rahab. Et l'association est intéressante, parce qu'effectivement, ce cordon va être l'espérance qu'elle a d'avoir la vie sauve et d'être sauvée par l'intervention de Dieu lui-même. D'ailleurs, ce signe est le même que celui que Dieu avait donné au peuple au moment où il est sorti de l'Égypte, au moment où ils ont célébré la Pâque pour la première fois. Ils devaient marquer du sang les portes de leur maison pour protéger leur enfant premier-né, pour protéger tous ceux qui étaient dans la maison. Tous ceux qui voulaient se placer sous le signe du sang devaient être dans la maison. Et c'est exactement la même consigne qui est donnée à Rahab. Tous ceux que tu veux placer sous la protection de cette alliance, amène-les dans ta maison. Vous pensez que Rahab a attendu le dernier moment pour appeler sa famille et les inviter à rentrer dans la maison ? Je peux imaginer qu'à peine les espions partis, Rahab a été voir tous ceux de sa famille pour leur dire « Écoutez, je vous invite chez moi, venez tous chez moi. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais vous ne pouvez pas comprendre, mais venez, venez chez moi, entrez dans cette maison. Restons ensemble devant le danger qui menace. Plaçons-nous ensemble sous ce signe de l'alliance. » Le salut se trouve dans l'alliance avec Dieu. Mais lorsque Dieu fait alliance avec nous, il nous invite aussi dans sa maison. Il nous invite dans l'Église. Et je crois que c'est aussi notre tâche. Nous qui avons accepté cette alliance et qui bénéficions des grâces associées à cette alliance, d'inviter tous ceux que nous connaissons, d'inviter nos familles à rentrer dans la maison. Est-ce que nous avons fait alliance ? Est-ce que nous avons fait alliance avec Dieu ? Est-ce que nous avons fait cette alliance avec lui ? Et si nous ne l'avons pas fait, c'est sans aucun doute le moment de le faire. Mais pour ceux qui l'ont faite, on pourrait peut-être penser « Oh, mais c'est une chose que j'ai faite, le problème est résolu pour moi. » La question maintenant est de savoir, est-ce que nous sommes fidèles à cette alliance ? Est-ce que nous sommes conséquents dans notre vie par rapport à cette alliance ? Nous avons peut-être accepté cette alliance depuis longtemps, elle a peut-être besoin d'une reconsécration. Ellen White écrivait en 1903 cette phrase, « Frères et sœurs, d'après la lumière reçue, je sais que si ce peuple avait préservé un lien vivant avec Dieu, s'il avait obéi à sa parole, il serait aujourd'hui dans la Canaan céleste. Mais quand je pense à ce passage, je pense à ces pionniers de l'Église qui, dans mon esprit, avaient une longueur d'avance sur nous en matière de foi, de consécration, par rapport à la parole qu'ils avaient découverte. Ce texte qui a été écrit en 1903, je n'ose pas penser ce qu'il serait s'il nous était écrit aujourd'hui. En réalité, ceux qui ont accepté son alliance n'ont peut-être pas développé, entretenu ce lien vivant avec Dieu, obéi à sa parole, au point que le Seigneur puisse réaliser dans cette alliance ce qu'il aurait voulu réaliser. Et aujourd'hui, nous qui sommes les enfants de ces pionniers, sommes-nous davantage obéissant à sa parole? Avons-nous développé un lien plus vivant qu'eux encore à sa parole? Ou sommes-nous encore en train de retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu? N'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit « hâtez l'avènement du Seigneur ». Sommes-nous en train de le hâter? Sommes-nous en train de le retarder? En fait, la fidélité dans l'alliance que Dieu nous a proposée ne consiste pas à connaître les termes de cette alliance. La fidélité à l'alliance consiste à vivre selon ce que l'alliance nous dit. C'est un engagement différent. Le peuple se trouve maintenant devant le Jourdain et Dieu va donner à Josué des instructions pour passer le Jourdain. Mais avant, dans le chapitre 3 et au verset 5, Josué invite le peuple en disant, Josué chapitre 3 verset 5, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Sanctifiez-vous. S'il était nécessaire de se sanctifier avant d'entrer dans la terre promise terrestre, à combien plus forte raison, me semble-t-il, il est nécessaire que nous nous sanctifions avant que nous rentrions dans l'éternité. Le peuple était invité à demander le pardon de ses péchés, à enlever tout ce qui gênait la relation entre lui et Dieu, à s'écarter du mal, à s'humilier, à vivre dans la prière et dans la consécration, à enlever toute impureté dans sa vie. Et c'est sans aucun doute ce que nous sommes invités à faire. Parce que, dit le texte, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Pour que le Seigneur puisse accomplir ses prodiges au milieu de nous, il est nécessaire que nous prenions aussi au sérieux cette invitation à nous sanctifier alors que nous sommes sur le seuil de l'éternité. D'ailleurs, il y a devant eux le Jourdain. Et le Jourdain, dans la parole de Dieu, représente la mort à bien des égards. D'ailleurs, le Jourdain va se jeter dans la mer morte. Et puis, pensez aux événements qui sont associés au Jourdain. Je pense en particulier au baptême de Naaman, au baptême que Jean-Baptiste a pratiqué à cet endroit-là, justement, qui étaient tous des symboles de la mort à soi-même, dans le Jourdain. Ce passage du Jourdain représente cette mort spirituelle à laquelle nous sommes invités. Elle peut représenter pour certains ce sommeil de la mort avant de pouvoir rentrer dans l'éternité. Tous ne seront pas vivants lorsque Jésus reviendra. Certains se seront endormis dans le sommeil de la mort. Mais souvenez-vous, le Jourdain sera encore ouvert dans l'avenir. Dans le deuxième livre des Rois, nous est rapporté ce moment, ces derniers moments de la vie du prophète Élie, avant qu'il soit pris au ciel. Il est en compagnie de son serviteur Élisée, qui lui sait très bien que son maître va être enlevé aujourd'hui au ciel. Vous savez comment Élisée insiste pour rester avec Élie jusqu'au dernier moment. Et vous vous souvenez comment Élie va lui demander « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Élisée, conscient lui aussi comme Josué, qui n'est pas à la hauteur, il n'est pas à comparer avec la stature spirituelle de son maître Élie, demande une double portion de son esprit, sentant dans quelle mesure il va avoir besoin de cette force pour faire face au défi qui est devant lui. Et puis vous vous souvenez qu'ils vont arriver au Jourdain. Élie va rouler son manteau et de son manteau va frapper les eaux qui vont s'ouvrir. Et ils vont passer, nous dit le texte, à pied sec de l'autre côté. Le Jourdain s'est ouvert parce que Élie l'a frappé de son manteau qui représente ce manteau de la justice du Christ. Ce manteau de la justice du Christ qui est représenté par le manteau d'Élie est une image extraordinaire du pardon et de la justification par la foi en Jésus. Nous en avons un exemple dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, au verset 10, il est écrit ceci. Ésaïe chapitre 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, de la délivrance dans certaines versions, le manteau de la justice. Mais aujourd'hui, dans le texte qui nous intéresse, le Jourdain est ouvert par l'arche de l'Alliance. Le peuple est devant le Jourdain. Et on va lui donner l'instruction de savoir comment il va falloir le passer. Aujourd'hui, c'est l'arche qui va ouvrir le Jourdain. Et dans l'arche se trouve la loi de Dieu. Ce Jourdain qui ouvre, si vous voulez, les portes vers la terre promise, vers la vie éternelle, ce Jourdain s'ouvre par la foi de Jésus et par l'obéissance à ses commandements. Par le manteau d'Élie, par l'arche de l'Alliance. En réalité, quand j'y pense, ce sont les deux clés que nous retrouvons dans l'Apocalypse et qui ouvrent la vie éternelle à ceux qui persévèrent pour la recevoir. Vous connaissez ce passage d'Apocalypse chapitre 14 qui dit au verset 12, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Ce sont là les deux clés qui ouvrent le Jourdain. Ce sont les deux clés qui ouvrent cette porte vers l'éternité et vers le salut en Jésus-Christ. Des instructions précises sont données. Les choses vont se faire dans l'ordre. Au chapitre 3 du livre de Josué, au verset 17, il est dit ceci. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme, sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. L'arche, portée par les 12 sacrificateurs, allait en tête. Le peuple devait suivre 500 mètres plus loin. Et les sacrificateurs, à pas lents, sont entrés dans le Jourdain. Et lorsqu'ils étaient tous les pieds dans le Jourdain, c'est à ce moment-là que les eaux se sont arrêtées de couler. Arrêté en un monceau, dit le texte, environ 32 kilomètres plus haut, en amont du fleuve. Ils sont venus jusqu'au milieu du fleuve, et là se sont arrêtés. Alors, je suis sûr que le Seigneur leur a donné une force particulière, parce que cette arche devait être lourde à porter. Il y avait là-dedans les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et ils ont porté cette arche toute la journée pour permettre au peuple de passer à pied sec. Rendez-vous compte, rester debout, portant l'arche de Dieu toute la journée au milieu du lit du Jourdain et le peuple a passé. Et j'imagine cette image, l'arche portée par les 12 sacrificateurs, cette arche qui contient les 10 commandements, la loi de Dieu et le peuple qui passe devant l'arche, comme une revue. C'est une image du jugement où le peuple passe devant l'arche qui est le signe du trône de Dieu. Où se trouve son caractère, sa loi? C'est une image du jugement qui a lieu inévitablement, nous dit les Écritures, avant que le peuple puisse rentrer dans la Canaan céleste. Alliance et jugement. Nous retrouvons partout dans les Écritures cette allusion à l'importance du jugement, non seulement pour l'histoire passée, mais pour l'histoire de ceux qui attendent le retour de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, nous retrouvons un texte qui nous rappelle exactement ce dont nous sommes en train de parler, mais cette fois-ci dans le cadre de la fin des temps. Apocalypse, chapitre 6, Vous vous souvenez que ce chapitre apporte la vision de Jean concernant les sept sceaux. Et il est dit au verset 9, Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet leur compagnon de service et leur frère qui devait être mis à mort comme eux. » Vous remarquez ici, il est question des martyrs, il est question de ceux qui, pour leur foi, sont morts, de ceux qui sont dans le sommeil de la mort. D'ailleurs, il leur est dit après de se tenir encore en repos. Mais pendant qu'ils sont en repos, leur sang crie, comme crie le sang d'Abel, et demande « Jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance ? Jusqu'à quand tarderas-tu à faire ton jugement ?» Ils attendent le jugement. Et pendant qu'ils sont morts, une robe blanche leur est donnée. C'est dire à quel point ce jugement va avoir lieu pendant qu'ils seront dans le sommeil de la mort, à la fin autrement dit, tout à la fin des temps. Nous retrouvons ici exactement ce que nous avons dans ce passage du Jourdain, ce passage du Jourdain où juste avant d'entrer dans la terre promise, Dieu juge son peuple. Et nous apprenons par les Écritures que le jugement commence par la maison de Dieu. C'est là qu'il commence. Dieu a passé en revue tout son peuple. Il l'a fait passer devant sa loi. Et c'est la raison pour laquelle il avait donné comme instruction auparavant, « Sanctifiez-vous ». Le jugement a commencé par le peuple. Et puis, il va continuer par les autres. Ce sera le jugement sur Jéricho. En fait, le jugement, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui sont fidèles dans l'Alliance. Et c'est la raison pour laquelle Alliance et jugement sont les deux facettes d'une seule et même chose. Ceux qui attendent le jugement avec impatience et avec joie sont ceux qui ont confiance parce qu'ils ont été fidèles à l'Alliance, ils ont rempli leur part de l'Alliance et ils savent que Dieu est fidèle et il remplira la sienne. Mais ceux qui n'ont pas été fidèles à l'Alliance savent que le jugement sera pour eux non pas une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle, il sera condamnation. Alliance et jugement. Le texte de Josué, où nous sommes au chapitre 3 de ce livre, nous donne une indication intéressante dans le texte que nous avons vu tout à l'heure, dans Josué au chapitre 3, au verset 17, une indication, un détail. Un détail nous est donné, qui est troublant quand on y pense. Il est dit, au verset 17, que tout Israël passait à sec. Le lit du fleuve était sec. Et deux fois, le détail nous est donné dans le verset. Mes amis, lorsque l'eau se retire du lit d'un fleuve, il est loin d'être sec. Il est boueux, il y a de la vase au fond. Et vous n'arrivez pas à le traverser aussi facilement que ça. Le texte nous dit que le lit du fleuve était sec. Autrement dit, ils ont tous traversé le fleuve et ils sont ressortis propres de l'autre côté. C'est ainsi que nous ressortirons de l'autre côté, propres. Propre pour l'éternité. En fait, il y a dans ce passage du Jourdain une image extraordinaire de ce qui attend ceux qui se préparent au retour de Jésus. Mais avant que le Jourdain ne se referme, Josué va encore donner des instructions. Il va demander à un homme de chaque tribu de prendre des pierres, 12 pierres, et de faire un monument au milieu du Jourdain. Il va leur dire de prendre encore 12 pierres et de faire un monument sur le bord, sur la terre ferme. Un monument pour se souvenir. Et c'est vrai, nous oublions. Le Jourdain s'est refermé et le monument est là. Il dépasse le niveau de l'eau, au milieu, là où l'arche est restée pendant que le peuple traversait. Et c'est vrai que nous avons tendance à oublier. C'est la raison pour laquelle en plein milieu de sa loi, le Seigneur rappelle le quatrième commandement en disant « Souviens-toi du jour du repos ». Parce qu'en réalité, ce commandement-là est directement lié avec l'alliance. On se souvient de l'alliance. Et lorsqu'on oublie, c'est le péché. Ainsi, nous avons tendance à oublier la force et la puissance de la loi et de la parole de Dieu. Curieusement, si vous lisez le psaume 119, que vous prenez le temps de lire donc ce psaume le plus long, vous allez découvrir qu'il y a 7 versets dans le psaume 119 qui disent « Je n'oublie pas ta loi ». 7 versets qui mentionnent que le psalmiste ne veut pas oublier la loi de Dieu. C'est dire à quel point nous sommes en danger d'oublier la puissance de sa parole. Nous sommes en danger d'oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons besoin de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. D'ailleurs, je crois que nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon avec laquelle le Seigneur nous a dirigés dans le passé et d'oublier la manière dont il nous a enseigné les leçons de sa parole. Parce que notre foi est fortifiée par toutes ces leçons qu'il a placées tout au long du chemin de notre propre vie et tout le long du chemin de ceux qui nous ont précédés sur ce chemin de la foi. C'est la raison pour laquelle il est important que nous puissions nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé. Maintenant, le peuple d'Israël est de l'autre côté et ils sont dans une situation particulière. Pensez, le Jourdain s'est refermé et devant il y a Jéricho. Plus question de revenir en arrière. Plus question de revenir en arrière. Ils ont devant eux une victoire à gagner, qui n'est pas encore gagnée, mais la promesse est faite. Mais la porte s'est fermée derrière eux, garantissant ainsi que le Seigneur va accomplir envers eux les promesses qu'il leur a faites. Vous vous souvenez de ce passage des Écritures dans l'Évangile de Luc au chapitre 17 où il est dit « « Souvenez-vous de la femme de Lot. » De quoi donc devons-nous nous souvenir par rapport à la femme de Lot, si ce n'est qu'elle a regardé en arrière et qu'elle a souhaité revenir en arrière. Ce n'était même plus possible à ce moment-là pour le peuple d'Israël, parce qu'en réalité, le Seigneur avait ouvert devant eux la voie de la nouvelle terre. Les préparatifs pour la vie éternelle se voit aujourd'hui dans le monde et dans l'Église. Et le Seigneur nous invite, je crois, de la même manière qu'il invitait le peuple d'Israël, en disant « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Je les attends d'ailleurs avec impatience, mais sans doute le Seigneur attend-il avec autant d'impatience que nous répondions à cette invitation-là. Il voudrait d'ailleurs nous faire participer à ces grandes choses qu'il va accomplir dans l'Église et dans le monde. Il veut nous faire collaborateurs de cette œuvre finale, d'un temps d'ailleurs que beaucoup de nos pères et de nos prédécesseurs spirituels auraient voulu voir. Mais pour être prêt, j'aimerais vous laisser pour terminer une prière qui se trouve précisément dans le psaume 119, qui est au verset 29 et qui, dans une formule très courte, reprend, je crois, la totalité de ce plan du salut. Dans le psaume 119, au verset 29, il est dit cette prière qui est la mienne et qui est la nôtre aujourd'hui. Ô Dieu, accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Amen.